Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on est dans la version podcast plus nouvelle qu'on vous êtes habitué de voir maintenant aux deux semaines. La semaine prochaine, en fait, vendredi prochain, notre revue du Volkswagen Tiguan 2022 Highline sera mise en ligne. Donc, vous irez voir ça, c'est super intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec la chaîne? Premièrement, merci. On a dépassé le 300 abonnés. Je sais que ça peut paraître un peu petit là, dans l'univers de YouTube avec des chaînes avec plus de 1 million d'abonnés, mais en réalité, pour nous, c'est quelque chose qui est complètement à part. C'est notre hobby, notre passe-temps. C'est complètement non relié à nos vies professionnelles. Donc, on vous remercie de nous écouter. On vous remercie d'être là à toutes les semaines. On rejoint plus de 5000, 6000 personnes par mois déjà avec plein de vidéos, donc ça nous fait chaud au cœur. Puis pourquoi je voulais parler de tout ça, c'est que le nombre d'abonnés, lorsqu'il dépasse 1000 sur YouTube, on a accès à certains revenus publicitaires, fait partie du programme partenaire de YouTube. Et en réalité, pourquoi on dit ça, c'est que avec ces revenus-là, nous serons capables d'acheter encore plus d'équipements et de vous offrir encore plus de contenu intéressant. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous voulez faire, nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça va nous aider grandement et ça va nous permettre de vous offrir encore plus de contenu. Donc, allons rapidement dans le sujet. La première chose que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est... On va vraiment plonger dans le monde de l'électrique rapidement. Là. General Motors recommence la production de la Bolt EV et EUV le 4 avril. Là. Désolé pour l'article en anglais, mais c'était plus pour vous donner ma source. Là. Ça s'en vient. Je me souviens, j'avais visité une concession General Motors dans la région de Montréal en décembre 2021. Puis, m'avait dit au mois de mars, on est au mois d'avril, là, donc c'est à peu près la même chose. Donc, pour ceux qui ont commandé des Chevrolet Bolt EV et EUV cet automne ou cet hiver, ben, ça vous donne une idée lorsque la production va commencer. Évidemment, les batteries qui seront mises dans ces véhicules flambant neufs-là sera la batterie révisée qui est actuellement installée dans les véhicules là, en fonction du rappel. Mais à part de ça, c'est tout assez simple. Là, il y a des gens qui se disent « qu'est-ce qui va arriver avec la Bolt EV et EUV? » On en a discuté dans un podcast précédent. Est-ce que le Chevrolet Equinox, quand il va sortir en 2024, va venir remplacer la Bolt EV et EUV? C'est pas encore confirmé, mais tout porte à croire que ce véhicule-là va avoir eu peut-être une vie un peu plus courte que la plupart des véhicules General Motors ou même des véhicules électriques. On verra, mais effectivement, je veux dire, la Bolt EV et EUV, c'est une voiture électrique qui a été, je pense, qui est géniale, qui a été avant son temps, puis qui a été très avant-gardiste pour General Motors, mais ça va tellement vite, le monde de l'électrique, que c'est le temps là, d'embarquer des véhicules sur la plateforme Ultium pour GM, puis je crois bien que GM va bénéficier là, de juste embarquer avec l'Equinox et peut-être même un modèle plus petit là, qui va remplacer la EV et EUV avec leur nouvelle technologie de batterie, nouveau moteur, nouvelle architecture électrique. Fait à la fin, le EUV, c'est un excellent véhicule, mais il faut continuer d'avancer parce que c'est comme ça qu'on va atteindre la transition totale un jour, mais en 2028, on est très confiant, moi et Gabriel, que ça va être pas mal enclenché. Ensuite, General Motors encore. Le Cadillac Lyriq, on n'en a pas parlé beaucoup. Dans le fond, c'est comme le Tesla Model Y de GM ou le Tesla Model X peut-être, mais en grosseur, ça ressemble plus au Model X, sauf qu'il n'y a pas cette place. Mais peu importe. Ça va être leur premier véhicule entièrement électrique. Un véhicule sur la plateforme Ultium. Donc, Ultium, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est la nouvelle architecture électrique exclusive à General Motors. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a le Hummer EV, on a le Silverado EV, le Chevrolet Equinox EV qui a été présenté dernièrement et le Cadillac Lyriq. Donc, théoriquement, après le Hummer EV, le Cadillac Lyriq serait le deuxième véhicule sur la plateforme Ultium de GM. Regardez. Ça va être probablement super intéressant à voir parce que, tu sais, je veux dire, ça reste un véhicule de grand luxe et aussi les capacités de ce véhicule-là parce que ça vient avec une batterie de 100 kWh, de la recharge rapide là, au-delà de 150 kW et évidemment, là, c'est un véhicule extrêmement luxueux. Il y a version 2 roues motrices, roues motrices arrière, 4 roues motrices aussi, autour de 350 chevaux, je pense que la version de base, un prix de départ au canadien de 71 000 $. Fait que ça va être intéressant, là. Ça va devenir, évidemment, c'est pas une voiture grand public, mais quand même, chaque nouvelle voiture électrique sur le marché est une voiture électrique de plus pour la transition. Fait que moi, je suis bien content de ça. Mais à part de ça, c'est juste pour vous dire que la production commençait aussi au mois de mars. Fait qu'on va commencer à en voir sur les routes prochainement. Encore une fois, on parle de General Motors. Voyez-vous, eux autres, c'est pacté là, dans les dernières deux semaines. Pourquoi je voulais vous montrer le site web ici? C'est parce que récemment, ils ont présenté un petit vidéo teaser, là, rien de bien révélateur, mais que le Blazer, un véhicule que General Motors fait actuellement seulement en version moteur thermique, va ben, être une version électrique aussi sur la plateforme Ultium, le Blazer SS, qui va être, comment je pourrais dire ça, pour eux autres, ça va être un véhicule électrique un peu plus sport, VUS, pour aller chercher une clientèle un peu plus jeune. On verra, évidemment, c'est quoi la question qui tue, c'est combien ça coûte et quand est-ce qu'il sera disponible. General Motors dit que c'est un véhicule année modèle 2024, donc printemps 2023, mais tu sais, je veux dire, ça va être peut-être les premiers modèles aux États-Unis. Honnêtement, au Canada, sur les routes, facile à obtenir en 2024. Puis là, on est en mars 2022, donc c'est encore un peu loin, mais gardez. Les constructeurs maintenant ont une technique un peu différente pour annoncer les véhicules. Ils annoncent des véhicules vraiment d'avance pour créer de l'engouement. Puis pouvoir aussi s'assurer que les gens les réservent d'avance. Donc, ça sera à voir, mais regardez, encore une fois, comme je le dis, c'est un véhicule de plus électrique pour nous assurer de continuer la transition. Donc ça, c'était les trois choses par rapport à General Motors que je voulais vous parler ce matin. Aussi, évidemment, dans le dernier podcast, il y a deux semaines, on avait parlé du Volkswagen ID Buzz, BU2Z. Eh bien, le 9 mars, à Paris, Volkswagen, le groupe Volkswagen, a présenté la version de production du ID Buzz. Donc, il y a deux semaines, on vous avait présenté les photos des modèles de pré-production que les journalistes avaient pu conduire. Et là, maintenant, Volkswagen a présenté la version de production européenne, mais la version américaine sera similaire. L'empattement changera. Puis on va regarder les images, puis je vais vous donner un peu mon opinion. Fait que, ce que vous voyez ici, là, c'est la version le People Mover, qui appelle en anglais, dans la version comme minivan du ID Buzz. C'est l'empattement court. Le marché nord-américain n'aura seulement que l'empattement allongé. Puis des gens me diront, oui, mais Alexandre, ils vont ajouter où la longue? T'sais, dans le fond, ils vont rallonger l'empattement où? Ben, dans le fond, ça va être entre les deux essieux. Donc, dans le fond, en anglais, le hovering, là, le porte-à-faux à l'avant et à l'arrière va être inchangé. Le véhicule va seulement être allongé entre les roues. Ce qui est bien, fait à noter aussi que la version empattement long en Amérique du Nord va avoir trois rangées de sièges. Donc, on peut penser à 6 ou 7 passagers. Puis évidemment, il y aura des versions converties en véhicules récréatifs. Je pense que ça, c'est la plus grosse affaire là, que les gens attendent. Là. Un véhicule récréatif électrique qui fonctionne sur une plateforme. Tu sais, c'est pas une modification, là, c'est un véhicule fait pour ça. Donc ça, c'est super intéressant. Mais regardez, là, moi, là, ce que j'aime le plus de ce véhicule-là, c'est le look arrière. La barre de LED à l'arrière pour les feux, là, qui ressemble un peu au ID4, mais en réalité, c'est un peu logique, là, c'est ID Buzz, puis le grand panneau complètement droit. Ça, pour moi, là, c'est venu me chercher beaucoup, et le gros, gros signe Volkswagen. Ensuite, là, dans le fond, ça, c'est une vue arrière. Évidemment, ben, c'est pas comme un Dodge Caravan ou une Chrysler Pacifica. Il n'y a pas des sièges qui se rabattent à l'intérieur du plancher. C'est des sièges qui ne baissent pas à plat, puis probablement qu'on peut les enlever. Là, on voit les petits ancrages ici. Mais bon, somme toute, moi je pense que la plupart de ces véhicules-là en Amérique du Nord vont être utilisés comme des véhicules récréatifs. Là. À moins que certaines personnes décident de les utiliser comme des minivans, ça serait la première mini-fourgonnette électrique disponible sur notre marché, là, à moins que quelqu'un en sorte une avant 2024. Mais bon, ça va être à voir, mais pour ce qui est du look, c'est super. Voici, là, on a une vue de l'intérieur. Là. Ça va probablement. Moi, à première vue, je regarde ça, malgré que c'est fait sur la plateforme MEB de Volkswagen, que son but principal, c'est de sortir des véhicules rapidement et de diminuer les coûts, ben, ça va quand même être un véhicule cher, on s'entend. Là. Je ne peux pas m'attendre à ce que ce véhicule-là se détaille sous les 50 000 $ canadiens. Selon moi, c'est comme presque impossible. Là. Je veux dire, ça va être un gros véhicule, ça va avoir une grosse batterie. Je ne sais pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est les motorisations. Parce que malgré que la version européenne utilise la batterie de 77 kWh net et le moteur de 201 chevaux que le ID4 deux roues motrices a au Canada, Volkswagen a laissé présager qu'il y aurait une batterie plus grosse éventuellement pour le marché américain et pour le marché européen. Évidemment, on va avoir une version 4 roues motrices, c'est sûr, donc on va tomber à autour de 300 chevaux. Ça va être à voir si nous, on va avoir aussi la même version qu'en Europe là, avec le moteur de 201 chevaux. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne le sais point. On le saura plus tard en 2023 lorsque la version nord-américaine sera présentée et en 2024 lorsque les gens mettront la main dessus. On l'essayera évidemment. Mais somme toute, regardez, il y a deux. Je voulais vous présenter les deux tons intérieurs. Il y a un intérieur un peu plus orange, un intérieur un peu plus jaune. Évidemment, il va y avoir des intérieurs un peu plus sobres, mais vous savez. Ensuite, ça, c'est les places arrière. Ça, c'est la version cargo, là, que je suis en train de vous montrer. On n'aura pas ça en Amérique du Nord. On n'aura pas la version cargo. Il y a des raisons, là, on appelle ça le « chicken tax ». On ne peut pas importer des véhicules commerciaux en Amérique, aux États-Unis spécialement, sous peine de payer des énormes tarifs. Donc, ça ne sera pas, à moins de l'assembler aux États-Unis, je crois. Mais bon, peu importe. C'est pour ça que je vous le montrer. Certaines photos que je n'ai pas retrouvées sur le site de Volkswagen Media Amérique du Nord montrent qu'on peut rentrer deux palettes européennes, des palettes en bois, dans le coffre de ce véhicule-là. Fait que, pour les gens qui travaillent dans le monde, dans la construction, font de la livraison en Europe, ça va être parfait. Un véhicule comme ça, plancher plat, diviseur, des ancrages, puis on peut rentrer deux palettes standard européennes là-dedans. Fait que ça va être super intéressant. Mais voyez-vous, là, l'intérieur est beaucoup plus sobre dans la version cargo, mais à la fin, ça fonctionne quand même. Là, je veux dire, c'est assez joli et assez simple. Regardez ça. Là, je veux dire, ça ne peut pas être... C'est impossible que ce véhicule-là ne soit pas un succès. C'est sûr que le prix de détail va être élevé, mais moi, là, c'est rétro, c'est une bonne idée, c'est électrique et c'est disponible bientôt. Je veux dire, c'est ça que ça prend. Donc, ça, c'était le ID Buzz. L'autre chose que je voulais vous parler, dans d'autres épisodes, on a eu des commentaires d'auditeurs qui étaient extrêmement pertinents parce qu'on parlait de la recharge rapide du Kia EV6 et du Hyundai Ioniq 5 et des autres voitures qui chargent à plus de 100 kW. Puis, au début, je n'étais pas d'accord avec les commentaires. Les gens disaient « Ouais, mais au Québec, regardez, on n'a aucune borne à plus de 150 kW, ça vaut pas la peine. » Fait que tout ce qu'on voit en Europe et aux États-Unis, ça fonctionnera pas. J'étais un peu froissé au début, mais en réalité, vous avez probablement raison en ce moment. Effectivement, le réseau du circuit électrique est extrêmement étendu, que je considère très, très fiable. Bien évidemment, on a des bornes de 50 kW, on a des bornes de 100 kW. Et on a certaines bornes d'essai à 350, 150, 125. Mais ça, c'est des projets pilotes pour les circuits électriques. En réalité, au Québec, des bornes de plus de 150 kW, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là que le commentaire visant le Kia EV6, le Ioniq 5, et les autres véhicules qui s'en viennent là, tout prochainement, ben, le Volkswagen ID4 aussi qui charge à 125 et bientôt 135, sont concernés par ça. Et pourquoi que je vous montre la page web là, de PlugShare? C'est que j'ai filtré en fonction de, justement, plus que 120 kW de puissance. Puis je voulais voir l'étendue du réseau entre le Québec et l'Ontario, le réseau routier de l'Est du Canada, de quoi ça a valeur. Puis effectivement, il n'y a pas beaucoup de bornes. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit là, c'est majoritairement les bornes du circuit Electrify Canada, les bornes de Petro-Canada et certaines autres bornes de d'autres réseaux. Mais effectivement, je vous le dis, là, vous aviez raison. C'est pour l'instant, mettons, si là... Demain matin, il apparaissait là, des centaines et des milliers de véhicules qui peuvent charger à 150 kW. Là, ici, je mets de côté les Tesla parce que pour l'instant, ils ont le réseau de Supercharger là, à eux seuls. Ben, il va avoir une méchante cohue aux bornes. Parce qu'en réalité, quand tu regardes, là, tu veux partir de Québec, tu as sur la rive sud deux bornes, là, 350, 150 du Petro-Canada. Ensuite, il faut que tu arrêtes à Drummondville. Tu n'as rien entre les deux. Là. Il y a plein de bornes, 50 et 100 d'Hydro-Québec ici. Là. Il y en a une à Laurier Station, il y en a au Madrid, il y en a partout. Mais quand tu regardes, là, il n'y a rien. Ensuite, à Sherbrooke, il y a une borne d'essai 350 kW à l'aire de service d'Offord, mais on l'a essayé avec le Polestar 2, ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si elle fonctionne aujourd'hui. Il y a la borne de Petro-Canada ici, que à toutes les fois que je passe demain, quand je fais Québec-Montréal, elle est hors service et elle semble encore hors service aujourd'hui. Mais c'est vrai, il y a une grosse lacune au-delà de 100 kW au Québec. Puis c'est inquiétant. Pourquoi que je dis que c'est inquiétant? Parce que c'est... Les gens achètent les véhicules. Il y a des listes d'attente immenses pour ces véhicules-là. Je veux dire, regardez, moi, le ID4 que j'ai réservé, là, j'ai 14 mois d'attente. Là. Puis dans certains concessionnaires, il y a 24 mois d'attente. Puis là, on parle pas du Ioniq 5, on parle pas du EV6, on parle pas des Tesla, on parle pas de tout le reste. Et je comprends. Là, puis je ne vois aucun plan pour l'instant, et j'aimerais ça que quelqu'un me corrige, que le circuit électrique ou la compétition dans le domaine de la recharge rapide au Québec a des plans pour électrifier au moins les grands axes routiers Québec, Montréal, Rivière-du-Loup, Sherbrooke, les Laurentides, avec au moins 150 kW. Parce que selon moi, là, à 150 kW, puis que tu es capable de l'avoir de façon fiable, là, c'est déjà très bien. Là, ça va permettre de charger la plupart des véhicules là, sous les 20 minutes, là, ajouter un petit 200 km. Mais regardez, pour l'instant, c'est là qu'on est. Et c'est là que ça m'amène sur un autre point, parce que je suis porté à faire Montréal-Toronto assez souvent. Et la 401, c'est pas mieux. C'est l'autoroute la plus achalandée au Canada, surtout entre Québec et Montréal. Puis c'est pas mieux, là. Regardez, là, c'est une... Tout ce qu'on a, c'est Electrify Canada. On a aussi Petro-Canada. Tu sais, je veux dire, la puissance de ces bornes-là est excellente, mais il y en a combien, là? Il y en a une à Cornwall. Ici, il y en a deux dans chaque aire de service. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis 9 en rentrant. 9 bornes pour l'autoroute la plus achalandée au Canada sur le trajet que, dans le fond, en train, en avion et en voiture, c'est les deux destinations qui sont le plus voyagées par les Canadiens. Donc, pas que c'est inquiétant, mais il y a clairement une lacune ici. Puis, des superchargers, Tesla, il y en a une coupe aussi, là, mais l'avantage des superchargers, c'est que la plupart des sites ont au moins 5 à 10 bornes, 5 à 10 plugs, on pourrait dire ça en bon québécois. Là, mais tu sais, ces stations-là, pour les avoir visitées, là, c'est 2 ou 3. Electrify Canada sont meilleurs que Petro-Canada, je vous dirais. Là, ils en ont des fois à 5-6. Mais il y a une lacune. Pourquoi que je m'en vais là? C'est parce que, dans le fond, ça a été annoncé récemment là, dans les aires de service là, sur l'autoroute 401, les OnRoute, qui est un partenariat public-privé avec le gouvernement de l'Ontario. Ils allaient équiper, pour l'été 2022, la plupart de leurs aires de service là, qui sont sur la 401 en Québec-Montréal avec des bornes 150 kW. Donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que ces aires de service-là sont extrêmement bien positionnées sur l'autoroute. Il y en a une à peu près à toutes les 80 km. Et elles vont être équipées au moins de 4 bornes chacune. Ils disaient une puissance de 150 kW, mais là, quand je regarde sur leur site web puis je pointe sur certaines aires de service en route, on voit que c'est marqué 200 kW. Donc, tant mieux, regardez, là, on ne va pas se plaindre, mais encore une fois, le seul défaut, c'est que c'est un autre réseau de recharge. T'sais, est-ce que ça aurait pu être un partenariat avec Flow? Je ne le sais pas. Pour l'instant, la compagnie s'appelle Ivy. C'est un partenariat aussi avec Canadian Tire, parce que toutes les stations de service... C'est la marque Canadian Tire dans les aires de service en route en Ontario. Mais bon, peu importe, ce que je voulais vous montrer, c'était que, si je redescends sur la carte ici, là, c'est regardez, il y en a un peu en construction. Mais quand on regarde ici, là, on en a une mais proche de Montréal, on en a une là. Ils vont en construire une proche de Cornwall. Il y en a déjà deux en service ici, à Napanee puis à Odessa. Ça, c'est quasiment à mi-chemin, Kingston, puis on descend. Donc, pour les gens comme moi qui sont portés à faire Montréal Toronto un peu plus souvent que la moyenne, ben si vous avez une voiture électrique, ça s'en vient. Le réseau est en train de se solidifier, malgré que c'est rien à voir avec la France, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas. On s'entend, là, malheureusement, on n'est pas en Europe, mais c'est super bon de voir que, tranquillement, pas vite, le réseau se solidifie, malgré que je pense que personne, on va tous se dire que c'est pas assez vite, mais ça s'en vient. Pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne rapidement? On a écouté vos commentaires. On a d'autres défis 500 km qui s'en viennent avec des véhicules un peu plus récents, avec un peu plus d'autonomie. Fait que ça va être super intéressant de voir ça. On va filmer ça là, dans les prochains jours / semaines. Puis évidemment, continuez de nous dire qu'est-ce que vous voulez essayer. Évidemment, on va essayer de s'en trouver un, que ce soit le constructeur qui nous le prête, que ce soit un auditeur qui décide très gentiment et avec toute sa confiance de nous prêter le véhicule. Puis on va évidemment en prendre grand soin comme on a fait avec tous les véhicules avant. Mais c'est ce qui s'en vient. Donc, je pense que les défis 500 km ou des fois 1000 km, si la voiture a une autonomie vraiment longue, ça va vraiment être intéressant. On va essayer de toujours faire le même trajet pour garder ça égal et fair pour tout le monde, là. Juste pour vous le rappeler, là, c'est Québec, Montréal, la 10 puis la 55, la petite boucle, ce genre de grand triangle. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est des autoroutes qui sont extrêmement voyagées par les gens au Québec. Le dénivelé est quand même assez plat, malgré que c'est un faux plat là, entre Québec et Montréal, mais c'est assez facile, il y a beaucoup de bornes, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire des demi-tours si on a des problèmes. Fait, moi, je vois que pour faire le test, ça représente beaucoup la réalité des gens. Puis en même temps, pour nous, c'est sécuritaire de le faire. Fait qu'on n'a pas de pépins là, avec les véhicules qu'on emprunte. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des questions, des idées de sujets. On est toujours ouvert à ça. Et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode de Plus de Millage, que ce soit un essai routier ou un format podcast comme celui-ci. Merci beaucoup.